donc merci beaucoup pour cette première intervention. On va maintenant passer aux questions, une quinzaine de minutes. Pour essayer de favoriser la parité dans les prises de parole, on va faire une double liste. Et donc je vais noter sur une liste les hommes et les femmes qui souhaitent prendre la parole, et donc on va alterner. Et on limite le temps aussi de prise de parole à 3 minutes par personne, et donc quelqu'un va le faire. Et donc il y a des micros qui vont passer dans la salle. Et donc, qui a des questions, qui a des remarques, qui voudrait des précisions sur ce qui a été dit?
Ok, deux éclaircissements s'il te plaît. Par rapport à Némésis, comment contrer Némésis? Et d'autre part, j'ai été inventé dans mon question à propos de la technologie. Je n'en ai pas parlé dans les trois groupes politiques aujourd'hui issus des différents de
Tiancourt. Je vais mettre de l'autre côté.
Comment est-ce qu'on agit d'ores et déjà la technologie hiérarchie à opposer au technomachisme? Je ne sais pas si tu as vu l'article ou pas. Je ne vais pas m'étendre. Cet auteur qui est ukrainien, universitaire, nous dit qu'il faut faire une distinction entre technofascisme et technoligarchie. Parce que le technofascisme ciblé explicitement certaines populations, et c'est donc les alliés pour lutter contre le technofascisme. Alors la technoligarchie est plus utile, moins criminelle, plus dangereuse, puisqu'elle s'appuie sur des algorithmes qui sont absolument invisibles. Voilà. Est-ce que tu as même nous parler un peu de ça ou pas? Ouais. L'article est sorti il y a deux jours, c'est peut-être un peu plus naturel.
Moi, j'avais une question sur le glissement sémantique entre extrême droite et fascisme. Est-ce que c'est nécessairement synonyme, ou comment est-ce qu'on différencie, comment on contre quelqu'un qui dit non, je suis extrême droite, je suis pas fasciste? Comment on différencie?
Comme quoi, les filles font que court.
Une question pratique pour les prochaines élections. Macron s'est beaucoup appuyé sur le consensus obligatoire, genre le macronisme, c'était attendez, la politique, c'est débat gauche-droite, ça sert à rien, alors qu'en fait, c'est l'expression du débat et du dissensus, donc c'est le fondement de la démocratie. Et là, on se retrouve avec un truc à trois branches, là. Et comment pour lutter contre le fascisme? Moi, j'ai voté Macron, en 2017 en me disant ça va passer. En 2022, j'ai voté Macron en me disant putain, ça chauffe. Après, je me suis retrouvé en manif en me disant tiens, c'était plus facile de manifester contre l'extrême droite que contre Macron. Et donc là, c'est compliqué parce que il va falloir qu'on s'allie avec des gens avec qui on n'est pas d'accord et qui sont à l'origine, à mon avis, de la montée du RN. Donc ça, c'est un. C'est la grille, le peste ou le choléra, quoi, voilà.
Bonjour, moi j'ai une question parce que je l'entends beaucoup. On fait beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé avant 40, les années 1938-39, la montée du fascisme et tout ça, et j'aurais aimé avoir votre point de vue à vous.
Oui, bonjour, Éric Granata pour la CGT Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais utiliser les 3 minutes. Voilà. Non, merci déjà pour cette organisation et puis pour la conférence. Merci Hugo. Je voulais reprendre 2-3 mots. Bien entendu, on a tous conscience que l'extrême droite et la droite extrême font des émigrés un bouc émissaire, hein, ce que tu as bien dit. Hein. L'UMA d'aujourd'hui, elle rappelle qu'il y a, en 2023 par exemple, que 323 000 immigrés. Voilà, hein. Donc il faut 5 ans avant qu'ils perçoivent des allocs, je fais court. Hein. Voilà, hein. Et en tout cas, par leur impôt, la TVA, parce que tout le monde consomme, hein, notamment, ils rapportent plus, ils cotisent plus, en tout cas, qu'ils perçoivent. Il y avait le dernier chiffre aussi, 114 millions d'êtres humains obligés de quitter leur pays, ils sont accueillis par 75% dans les pays limitrophes, c'est-à-dire dans les pays pauvres. Hein. Voilà, ça c'est l'immigration, et on sait très bien que l'extrême droite, elle se nourrit des inégalités sociales, fiscale, j'en reviens là-dessus, et environnementale. Voilà, hein, donc ça, c'est un élément. J'ai bien aimé ton rappel à Orban. Il faut rappeler que c'est le pays de l'Union européenne qui a la plus forte inflation, la plus forte corruption, les plus fortes inégalités sociales, je ne suis pas sûr de moi, donc je ne vais pas aller plus loin. En tout cas, Orban, au pouvoir, il a laminé le code du travail. grosso modo 60 heures par semaine. Il n'y a plus de contrat de travail non plus. Hein. Voilà, hein. Donc rappelez que l'extrême droite, c'est vraiment l'ennemi des travailleurs et des travailleuses, bien entendu. Le rappel historique, j'ai bien aimé aussi ce que tu as rappelé sur 10-15 ans, il n'y a pas besoin de remonter aussi plus loin, sur que pour démontrer que le capital a peur des peuples. Voilà, hein, tu as parlé de Syriza et tout, rajoutons aussi les printemps arabes, comment ils ont pu faire. Oui, le capital a besoin de garder le pouvoir politique. Ça, tu l'as bien dit, je le rappelle aussi. Et l'extrême-centre, pour reprendre aussi, ne fait plus rêver. Voilà, avec son bilan économique, environnemental, social, ben voilà, il ne peut plus le vendre comme ça, le capital. Hein. Donc, il a besoin de l'extrême droite pour garder le pouvoir politique. Voilà. Donc, la réponse face à ça pour la CGT, mais aussi pour toutes les organisations, organisons-nous à la base. Voilà, les syndicats, c'est un rempart contre l'extrême droite. Et moi, ma question, Hugo, oui, ça revient à ce qui a été dit tout à l'heure sur le capitalisme de surveillance. Voilà, hein, les techno-fascistes qui sont là, comment on se protège, voilà, dessus. Et je rappelle, la CGT a interpellé dernièrement donc la direction régionale de l'emploi, notamment pour lui parler de la multiplication des data centers en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, et la place de l'IA générative dans le travail. Voilà, hein, donc ça aussi, c'est quand même un danger, surtout si elle est gouvernée par des multinationales très fascistes.
Oui, j'avais une question, remarque, par rapport aux attaques de l'extrême droite sur le genre et la place de la femme et l'importance aujourd'hui que prennent les masculinistes, par exemple, dans aussi la lutte de l'extrême droite, et voilà, qui sont quand même largement financés et qui ont un accueil assez, enfin une porte ouverte, je pense, sur nos jeunes, sur les jeunes, qui est assez effrayante. Et il n'y a pas que de l'éduc aujourd'hui, mais pour l'éduc, voilà, les attaques sur les VARS, par exemple, et voilà, le lien qu'on peut faire avec ça.
Oui, peut-être une remarque. Il y a une notion que j'ai découverte il y a quelques jours qui m'a semblé intéressante potentiellement à mobiliser pour lutter contre le fascisme ou l'extrême-centre. Et la notion n'a rien de péjoratif, c'est la notion d'éco-populisme, dont il était question à propos des Britanniques lors des dernières élections municipales et locales. Et voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. L'éco-populisme, oui.
Oui, désolé, on peut pas prendre toutes les questions, mais il y aura un autre cycle après. Il va répondre, il va redire des trucs un peu plus feel-good. Et puis, comment lutter? Là, c'était plus le diagnostic. Et il y aura... Gardez vos questions pour tout à l'heure.
Merci. Donc, comme on a dit, les questions, on les garde pour plus tard. Et puis, c'est pas perdu. On peut toujours en reparler après, entre midi et deux, etc. Juste petit point orga, je voudrais qu'on puisse à un moment, avec tous ceux qui animent les ateliers cet après-midi, se retrouver à un coin de la salle pour pouvoir décider qui va où, qui s'installe où et de quoi vous avez besoin. Je suis désolée, c'est une annonce juste d'orga interne, parce que là, on a un petit souci d'organisation, de répartition des différents ateliers. Merci.
Y a beaucoup de choses. Effectivement, ça va être compliqué de répondre à tout. Mais un petit mot d'abord sur les syndicats. Oui, je pense que c'est pas pour... mais je pense que c'est important de le dire dans ce cadre-là. On ne le dit pas souvent, parce que souvent on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher la victoire du RN à l'élection de 2027, en gros. C'est, tout le monde est focalisé là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on arrive à... pas simplement battre le RN, mais même vaincre le fascisme ou le néo-fascisme ou l'extrême droite. Encore, je laisse ouvert la discussion puisque je vais y revenir. S'il n'y a pas une forme de à moyen long terme, en quelque sorte de resyndicalisation et de d'augmentation des capacités d'organisation collective des classes populaires, l'extrême droite se nourrit de l'atomisation Qui ne veut pas dire que les gens sont forcément isolés, mais qui se replient sur des tout petits groupes affinitaires, leur famille, leurs meilleurs potes, etc. Il y a un sociologue des classes populaires rurales, notamment, qui insiste beaucoup là-dessus, qui est Benoît Coquart, en fait. Quand se délitent les grandes organisations, notamment syndicales, etc., ça ne veut pas forcément dire que les gens sont, restent uniquement chez soi, entre eux, etc., mais qui vont se replier sur leurs petits groupes, vraiment les plus proches, et défendre très souvent, même localement, une ligne qui est en fait une ligne de priorité, alors locale, nationale, en quelque sorte. D'abord nous, éventuellement ceux... Et les seuls moyens de faire valoir la solidarité collective à plus vaste échelle, pas simplement nous de notre village, ou nous, même moi et mes potes, mais nous, la classe travailleuse, nous, les classes populaires, peu importe leur origine, leur religion, leur couleur, etc., bah, c'est qu'il y ait des organisations qui fassent valoir cette idée-là, qui la fassent valoir concrètement et pratiquement. C'est-à-dire que les gens voient l'utilité qu'il y a à être organisés syndicalement, collectivement, dans leur boîte, dans leur territoire, etc. Et ça, en fait, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un tissu militant, et les syndicats sont les mieux placés pour ça, parce que ça reste les plus vastes organisations populaires en France, malgré le déclin de la syndicalisation dans les années 80-90, lié aussi aux grandes fermetures d'usines, qui étaient des forteresses ouvrières, syndiquées, etc. Oui, ok, mais en gros, on n'y arrivera pas sur le plan antifasciste, et on n'y arrive pas sur le plan syndical. Les deux questions sont fondamentalement liées, et je pense que c'est important d'y insister. Alors, sur le reste... comment contrer Némésis ? Alors ça rejoint un peu plus le débat d'après, en fait, en réalité, sur qu'est-ce qu'on fait. Mais pour, très très vite, je pense qu'en fait, dans le cas de Némésis, il me semble que la manière de contrer Némésis, bon, d'abord, c'est de ne pas normaliser leur présence. C'est-à-dire que ce qu'a fait le mouvement féministe depuis des années, notamment autour du 8 mars, des manifestations du 8 mars, et des manifestations de fin novembre contre les VSS, qui a été d'empêcher la présence de groupes féminins d'extrême droite, d'être présents et de, en quelque sorte, de diffuser leur venin et de normaliser leur présence raciste, xénophobe, anti-immigré, anti-musulman, etc., dans les manifestations féministes. De politiser cette question, politiser au bon sens du terme, pas dans un sens strictement partisan, mais de dire leur présence n'est pas acceptable, elle ne rentre pas, en quelque sorte, dans notre horizon d'émancipation égalitaire, etc., puisque précisément, ce sont des mouvements racistes, xénophobes, et donc inégalitaires, qui défendent l'inégalité. Bon. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est l'articulation nécessaire entre les combats. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on est désarmé face à Némésis si on n'articule pas féminisme antiracisme. Si on ne pense pas, par exemple, que pour être en quelque sorte... Mais c'est vrai pour les syndicalistes, d'une certaine manière. Quand on est syndicaliste, bien sûr, le combat principal, il va être sur les questions de conditions de travail, de salaire, etc. Mais évidemment, on ne laisse rien passer sur le plan du racisme, sur le plan sur le sexisme, sur l'homophobie, etc. Évidemment, on est amené à discuter avec les gens, et l'idée, c'est pas d'exclure bêtement, etc., mais d'avoir des discussions en ne laissant rien passer sur le plan. Ben, c'est pareil, c'est en quelque sorte politiquement vis-à-vis de groupes comme Némésis, il faut être en quelque sorte intransigeant sur ce que doit être en quelque sorte le mouvement féministe, y compris sur d'autres combats. Donc, le mouvement féministe, il doit être en quelque sorte intrinsèquement antifasciste. Bon, et donc, ne pas considérer que la présence de Némésis serait normale parce que ce sont des femmes qui défendent les intérêts des femmes. Non, ils ne défendent pas les intérêts des femmes, ils défendent les intérêts de, en gros, les femmes blanches. Bon. Et donc pas de toutes les femmes. Donc ça ne peut pas être un mouvement, une composante du mouvement féministe. Bon voilà, donc je le dis très, très vite, mais une des choses qui a désarmé la gauche pendant un certain temps, c'était, à mon avis, de ne pas prendre au sérieux suffisamment la question, justement, et le venin que constituait l'islamophobie, consistant à, justement, à projeter une image d'ennemis de l'intérieur et d'ennemis des femmes qui seraient par excellence les musulmans, l'islam, etc. Et donc, en quelque sorte, de laisser se diffuser cette ambiance dans laquelle, effectivement, on aimait se nourrit pour en quelque sorte trouver un exutoire sur cette question des VSS, sur la question des inégalités hommes-femmes, qui serait l'exutoire étant, évidemment, le bouc émissaire étant les immigrés du sud global, les musulmans, l'islam, etc. Bon. On les a vus, d'ailleurs, elles sont allées dans une manifestation fasciste en Grande-Bretagne avec des burkas, etc. Enfin, c'est délirant et extrêmement choquant ce qu'elles ont fait. Bon, voilà. Sur les attaques sur le genre et la place prise par le masculinisme chez les jeunes, il faudrait dire surtout chez les jeunes hommes, enfin, ce qu'on aperçoit au niveau mondial, notamment, pas que en France, en réalité un peu de manière plus marquée dans d'autres pays, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, c'est la progression très très nette de l'extrême droite chez des jeunes hommes. avec des jeunes femmes qui, enfin, une polarisation très forte chez, dans les catégories jeunes, en gros les 18-25 et les 25-34, entre des jeunes femmes qui sont de plus en plus progressistes, voire radicales politiquement, et qui votent de manière assez conséquente pour la gauche radicale, Die Linke par exemple en Allemagne, et des jeunes hommes qui votent de plus en plus pour l'AfD, bon, pour l'extrême droite, et notamment sur ces thèmes-là. Alors, je pense qu'en fait, la réponse pour moi, elle est là encore dans une forme d'articulation, mais aussi dans l'idée de ces jeunes hommes, pour moi, ils ne sont pas en quelque sorte tirés vers l'extrême droite par en quelque sorte un trop de féminisme. Parce que c'est un peu une tentation, on est allé trop loin dans le féminisme, donc ça, en quelque sorte, ça hérisse le poil de ces jeunes hommes, et donc ils votent pour l'extrême droite, ils se retrouvent à être masculinistes. Je pense qu'en fait, en réalité, c'est parce que le féminisme, en quelque sorte, n'a pas suffisamment, en quelque sorte, bouleversé les choses, y compris dans la tête des gens. Je vais m'expliquer. Une des choses qui, pour moi, est un moteur du succès des masculinistes, par exemple, sur YouTube, c'est pas que parce que les masculinistes, je sais pas, Papacito ou Soral, il y a 15 ans, etc., sont particulièrement séduisants, ou qu'ils parlent très très bien. Enfin, il y a toujours une tentation, quand on voit que quelque chose a du succès, d'imaginer que ce succès est uniquement dû à l'habileté de ceux qui ont du succès. Ça veut pas dire qu'ils sont pas habiles, par ailleurs, hein, mais il y a des conditions de possibilité de ce succès, des conditions sociales de possibilité de ce succès. Et pour moi, le succès des masculinistes, il est un peu à l'intersection entre deux choses. C'est-à-dire que se maintient dans toute une partie du corps social, et des hommes, y compris des jeunes hommes, l'idée que un homme, ça fait vivre sa famille. Le mythe du male, en anglais on dit le male breadwinner, celui qui apporte le pain sur la table. Et en quelque sorte, un homme, il faut qu'il nourrisse sa famille, il faut qu'il gagne plus que sa femme, il faut qu'il ait un bon boulot bien payé, etc. Bon, voilà. Donc il y a cette idée qui, malgré les avancées du féminisme, a quand même largement persisté dans le corps social, y compris chez les jeunes. Or, on est dans une situation sociale dans laquelle, en réalité, la bonne partie des hommes et des jeunes hommes ne peuvent pas atteindre cet idéal masculiniste patriarcal. Et donc se retrouve dans cet entre-deux de frustration très forte, de « je voudrais atteindre ce rôle du mâle, en quelque sorte, qui nourrit sa famille, etc. » Et je ne le peux pas. Et je ne le peux pas parce que, précisément, les femmes aujourd'hui travaillent, parce qu'elles réclament toujours plus, et en plus, parce qu'on a favorisé, et parce que les femmes, de fait, triomphent sur le terrain scolaire, et qu'on favorise les diplômes, etc. Et qu'il y a de moins en moins, effectivement, dans la structure socio-professionnelle, ces bons emplois masculins qui étaient accessibles à des gens qui avaient relativement peu de diplômes, à des jeunes hommes qui avaient relativement peu de diplômes, dans la condition ouvrière, où on pouvait progresser, devenir ouvrier qualifié, parfois contremaître, agent de maîtrise, parfois monter sa boîte, et à peu près convenablement, voire bien gagner sa vie à un certain stade de sa vie. Effectivement, avec la désindustrialisation, etc., bon, une partie de ces bons emplois stables, relativement bien payés au bout d'un moment, enfin, ou correctement payés au bout d'un moment, ont en partie disparu. Et donc, vous avez toute une partie de la jeunesse masculine, en quelque sorte, qui est un peu orpheline de ça, qui n'existe plus, qui en même temps est pris dans les raies de cette idée patriarcale de « il faudrait que je sois un vrai homme, que je nourrisse ma famille, etc. » Et, en quelque sorte, les masculinistes arrivent dans cette faille en disant « bah oui, mais ça, c'est la faute aux féministes. C'est la faute aux féministes. » Bon. Donc, je pense qu'en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ce qu'il faut réussir, c'est à articuler à la fois un féminisme qui va jusqu'au bout de la déconstruction, effectivement, des rôles de genre, et notamment ce truc effrayant de les hommes, un homme, ça doit nourrir sa famille, ça doit avoir un bon boulot bien payé, etc., etc. Bon, mais l'articuler, effectivement, avec le combat, justement, contre la précarisation, contre ce qui fait qu'une partie des jeunes hommes se retrouvent dans cette situation qui crée énormément de frustration sociale, et donc, en fait, articuler avec, par exemple, le combat syndical contre les politiques néolibérales, les politiques de destruction d'emplois, de nivellement par le bas, de stagnation des salaires, etc. etc. Donc le combat social au sens historique du terme, le combat syndical notamment, doit là encore être articulé au combat féministe. Hein. C'est évidemment programmatique et très abstrait dit comme ça, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de solution hors de ça, en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste une entreprise de rééducation, en quelque sorte, de pédagogie, même s'il faut en faire, il faut faire preuve de pédagogie. Je pense qu'il y a beaucoup de profs ici, dans cette salle. Donc c'est important, la pédagogie, c'est important de faire de l'éducation émancipatrice, la question de l'Evars, etc. Tout ça est très important. Il faut le défendre contre l'offensive de l'extrême droite, contre justement l'éducation à la vie affective et sexuelle, etc. Bon, ça, c'est évidemment crucial. Mais au niveau politique, il y a, notamment dans la manière dont se constitue le féminisme, et en fait, je ne fais que décrire ce qu'a fait d'ailleurs
le mouvement féministe depuis des années. Chercher à davantage s'articuler à l'antifascisme, chercher à davantage s'articuler à l'antiracisme, chercher à davantage articuler les revendications avec le mouvement syndical, contre la précarisation de masse, etc. Bon, et encore approfondir en quelque sorte cette dynamique-là. Sur le reste, alors est-ce que je peux vraiment répondre encore? Pas sûr, ouais, il est déjà tard. LFI comme parti d'extrême gauche, bah, c'est grotesque. Je ne sais pas si c'était ça la question, mais c'est évidemment grotesque, étant donné que le programme de LFI, quoi qu'on en pense d'ailleurs, n'est pas un programme révolutionnaire et n'est pas fondé, et LFI n'est pas fondé sur une stratégie révolutionnaire de conquête du pouvoir par des moyens révolutionnaires, etc. L'extrême gauche, historiquement, c'est les partis à la gauche du PC. Si on regarde l'AFI a un programme qui est sur le plan économique et social est bien moins radical que le programme de François Mitterrand en 1980 qui prévoyait de très nombreuses nationalisations de très grandes entreprises, de banques, d'assurances qui en partie ont été réalisées beaucoup moins que ce qui était promis mais qui en partie a été réalisé. L'AFI est de ce point de vue beaucoup moins radical. Alors, par ailleurs l'AFI le programme propose beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas dans les programmes de la gauche dans les années 80 sur le plan environnemental, sur le plan antiraciste. C'est pas un jugement de valeur, hein. Je veux dire ça n'a juste aucun sens, hein, de... Mais alors pourquoi c'est important? Parce que ça participe de cette ambiance de disqualification, diabolisation de la gauche. Et j'insiste, pas simplement d'une gauche radicale ou révolutionnaire, etc., comme disent, ou d'une extrême gauche, comme on dit dans les médias à propos de LFI, en réalité, de toute gauche qui ne renonce pas à être de gauche. Parce que, en fait, si vous regardez même au niveau mondial, je ne sais pas, quelqu'un comme Jeremy Corbyn qui prend la tête du Labour, Jeremy Corbyn, c'est certainement pas un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a toute sa vie été au Labour Party, le parti travailliste de centre-gauche, et qui juste, en fait, est attaché à ce qu'était le Labour Party dans une très grande partie de son histoire, et qui n'a pas accepté le tournant blairiste néolibéral, en fait. Et c'est un peu pareil, si vous voulez, Mélenchon, d'une certaine manière, c'est quelqu'un du parti socialiste, et qui n'a pas accepté, en quelque sorte, le tournant néolibéral du PS, et qui a décidé à un moment d'en sortir et de faire autre chose, quoi. Mais en fait, on voit bien que ce qui les dérange, c'est toute chose qui remet en cause effectivement les consensus les plus puissants, les plus structurants du champ politique. Le consensus néolibéral, le consensus anti-immigré, le consensus islamophobe et le consensus impérial-colonial qui fait que la France soutient inconditionnellement, en réalité, quoi qu'ils en disent, l'État d'Israël dans son entreprise génocidaire à Gaza. Et donc toute force qui, même tout simplement réformiste, et donc absolument non révolutionnaire dans le cas de la France insoumise, qui ne prétend pas d'ailleurs faire... Enfin, si, révolution citoyenne, bon, peu importe. Mais toute force qui met en cause ce consensus-là subira partout la même entreprise de disqualification et de diabolisation. Je veux dire, Bernie Sanders est disqualifié comme un vulgaire populiste hostile aux institutions américaines parce qu'il propose la gratuité de l'université, en tout cas la baisse des frais d'inscription dans les universités états-uniennes. Ouh, dans des universités où l'année est à peu près à 40 000 dollars l'année. Pourquoi supprimer la Sécu? Dans le cas du FN, ça renvoie à la fois à une manière... Enfin, en gros, ça renvoie à leur philosophie fondamentale qui est une philosophie, en fait, darwiniste ou social-darwiniste, plutôt, qui est que, en quelque sorte, c'est la sélection naturelle. C'est, il faut que chacun s'occupe de soi-même. Et il n'est pas normal que, en quelque sorte, la puissance publique, en quelque sorte, garantisse la protection à tout le monde, et en particulier, alors en plus, si elle le garantit à des gens qui ne sont pas d'ici, hein, vous voyez un peu le scandale. Donc, ça répond à cette philosophie fondamentale de l'extrême droite depuis toujours, qui est le social-darwinisme. La lutte des meilleurs pour la survie, en quelque sorte. Hein. Et donc, c'est pas à l'État, ou c'est pas d'ailleurs aussi à un système socialisé de protéger les gens, y compris les faibles, face aux risques de la vie. Hein, les risques en matière de maladie, mais aussi évidemment la vieillesse, les accidents du travail, etc. Donc, toute l'extrême droite de toujours en France a été hostile, hein, à ces conquêtes du mouvement ouvrier en la matière. Par ailleurs, ça répond surtout, je crois, aujourd'hui, à la volonté d'alliance de l'extrême droite avec le patronat. C'est vraiment l'agenda du patronat, il est clair. C'était dit d'ailleurs à l'époque où Sarkozy, désolé de revenir longtemps en arrière, mais Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, il dit « je vais détruire mon programme ». Enfin, c'est Denis Kessler, patron des sociétés privées, mais très important personnage du patronat français, qui dit « le programme, il est simple, c'est revenir sur toutes les conquêtes, notamment du Conseil national de la Résistance et donc de l'après-guerre, les conquêtes du mouvement ouvrier, et notamment la sécurité sociale, puisque ce sont des centaines de milliards d'euros qui dorment et qui ne sont pas disponibles pour la capitalisation boursière et en gros faire du fric sur notre santé. Là il est vraiment trop tard. Bon, je vais devoir skipper une série de questions. Si, il y en a juste. Bon, mais ça rejoint le débat d'après. Va falloir qu'on s'allie avec des gens avec qui ont favorisé le RN. Je ne dirais pas ça comme ça. Y compris le vote Macron au deuxième tour, qui est en fait un vote tactique. C'est pour éviter. Enfin, ce n'est pas une alliance. Enfin, moi, que l'on ait voté ou non pour Macron au deuxième tour, c'est un débat d'entre-deux tours, qu'on devrait réserver d'ailleurs à l'entre-deux tours pour moi, parce que c'est un débat défensif, genre ah, on a perdu, il n'y a pas de candidat acceptable au deuxième tour, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, et je pense qu'il faut mener ces débats quand il faut les mener, c'est-à-dire dans les entre-deux tours. Ceci dit, pour moi, ce ne sont pas du tout des alliances, il ne faut surtout pas les présenter comme des alliances, et surtout, la tentation de se dire, qui est présente chez certaines personnes, de se dire ah, il faudrait voter dès le premier tour pour quelqu'un qui serait en capacité de battre le RN au second, parce que j'ai lu un article dans Mediapart disant que certains cadres du PS se tâteraient à l'idée de voter ou d'appeler à voter Édouard Philippe dès le premier tour, celui qui a réprimé les gilets jaunes d'une manière extraordinairement brutale et criminelle d'une certaine manière, puisqu'il y a eu des dizaines de personnes qui ont perdu une main ou un œil, etc. Bon, donc il peut y avoir effectivement cette tentation. L'idée, c'est en quelque sorte, c'est de mettre tout en œuvre. Je dirais, comme ça a été fait en juin-juillet 2024, par tout le camp social des exploités et des opprimés, syndicats, associations, médias indépendants, gauche, dans toutes ses composantes, idéalement, ceux et celles qui le souhaitent et qui prennent ce combat au sérieux, d'arriver à faire en sorte que nous n'arrivons pas à ce piège, en quelque sorte, d'un duel, qui est en fait bien souvent un duo, entre l'extrême-centre et l'extrême-droite, entre les néolibéraux macronistes, post-macronistes et les néofascistes du RN. Donc en fait, c'est ça notre agenda. Vraiment, je pense qu'on devrait presque s'interdire à ce stade de discuter de « Ah, qu'est-ce qu'on ferait s'il y a un deuxième tour ?» etc. Je dis pas que... Mais je pense vraiment que la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait pour désamorcer ce piège dès maintenant ? Qu'est-ce qu'on met en place du local et du territoire ou de la boîte où on est, du secteur où on est, professionnel, jusqu'à la politique nationale, pour que, effectivement, en 2027, mais je rappelle, nous ne sommes pas en 2027, mais en 2026, pour qu'en 2027, on ne soit pas dans cette situation dramatique et désastreuse qui serait de réitérer une troisième fois de suite un duel entre l'extrême-centre et l'extrême-droite. Et juste, oui, parce que ça répondait plutôt sur l'extrême droite et fascisme. En gros, pour moi, l'extrême droite est une famille politique. Comme il y a une famille politique de la droite libérale, comme il y a une famille politique de la droite conservatrice, comme il y a une famille politique socialiste, communiste, anarchiste, etc. Dans cette famille politique des extrêmes droites, d'ailleurs on devrait dire les extrêmes droites, il y a une sous-famille qui est la sous-famille fasciste en quelque sorte. Parce qu'il y a d'autres sous-familles, auxquelles on pense pas souvent, mais qui ont eu une importance par exemple au XXe siècle, qui est la sous-famille par exemple de l'extrême droite militaire. Qui existe dans l'armée française d'ailleurs. Ils ont, je ne sais pas si vous trouvez de ces tribunes d'officiers d'officiers de haut rang, et vers 2021 il me semble, disant qu'il fallait envoyer l'armée dans les quartiers parce que la France se délitait justement avec tous les éléments de langage de l'extrême droite sur le déclin, la décadence de la société française due à l'immigration de masse, etc., etc. Donc il y a toujours eu une extrême droite militaire qui est bien implantée en réalité dans la hiérarchie militaire, qui ne sont pas les raisons en réalité du RN. C'est plutôt une extrême droite catholique traditionnaliste, voire qui frise l'intégrisme religieux, mais qui peut évidemment faire et fera alliance si nécessaire avec les autres branches de l'extrême droite et évidemment avec la droite, ce qu'il l'a fait par exemple dans les manifestations réactionnaires contre le mariage pour tous. Donc voilà, ça c'est une autre branche. Et je disais qu'il y a eu une importance au XXe siècle, parce que dans plein de pays, l'extrême droite qui a gouverné, c'était l'extrême droite militaire. Notamment en Amérique latine, mais aussi en Espagne avec Franco. Portugal, c'était, on va dire, composite, mais il y avait l'armée au premier rang. Voilà. Et après, il y a une autre extrême droite, qui est l'extrême droite, je dirais, traditionnaliste, qui était, par exemple, représentée comme par l'Action française, plutôt monarchiste, très ultra-réactionnaire. Vraiment, on va en revenir avant 1789, effectivement. On veut le roi, généralement aussi, pour le coup, sur une idéologie très, très traditionnaliste, intégriste, etc., et qui est assez différente de la sous-famille fasciste sous cet angle-là, notamment du rapport à la religion. Voilà, pour moi, l'extrême droite, elle englobe ces différentes familles ou sous-familles, et elle s'unit sur un peu la vision du monde que j'ai évoquée en quelque sorte. C'est juste que, en quelque sorte, les différences vont se faire en bonne partie sur la stratégie. Les militaires, leur stratégie, quand il y a un problème de leur point de vue, c'est le coup d'État militaire. Comme ils l'ont fait à de nombreuses reprises. L'extrême droite traditionnaliste, en réalité, était assez, pendant assez longtemps, au XIXe siècle, était assez peu politique, en réalité, intervenait assez peu sur le terrain proprement politique et notamment électoral, et cherchait davantage, avait souvent en fait une stratégie un peu presque, on pourrait dire aujourd'hui, métapolitique, de bataille culturelle, des idées, etc., pour en quelque sorte prôner un retour à l'ordre ancien, pré-révolutionnaire, pré-révolution française, etc. Les fascistes sont ceux qui, précisément à l'extrême droite, ont voulu investir la scène politique et donc chercher à séduire les masses et à s'affronter avec la gauche, avec le mouvement ouvrier. Et donc, voilà, c'est ceux qui, au sein de la famille des extrêmes droites, sont les plus actifs idéologiquement et politiquement sur la scène électorale et politique, y compris parfois militante, pour essayer. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux et en quelque sorte plus dangereux pour nous immédiatement. Les militaires, bon, on les confronte assez peu, on les croise assez peu, y compris dans nos mutations, etc. Les fascistes, eux, ils cherchent en quelque sorte à gagner une partie des classes populaires, des travailleurs, des travailleuses, de la petite bourgeoisie évidemment aussi. Et donc, en quelque sorte, on est beaucoup plus confronté à eux, y compris par exemple dans le milieu paysan, entre la conf paysanne et la coordination rurale, et même des secteurs évidemment de la FNSEA où on trouve au coude à coude des gens d'extrême droite et de droite. Voilà, typiquement, voilà, on voit bien comment ils cherchent à gagner une partie de la paysannerie, petite ou moyenne, avec une confrontation avec des syndicats qui ont une autre ligne, évidemment beaucoup plus ancrée dans le syndicalisme qu'on retrouve ici d'ailleurs. La conf paysanne n'est pas partie prenante aujourd'hui. Bon. Mais bon, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais bon.
Merci du coup pour ces quelques réponses. Et désolé si on est un peu contraint au niveau du temps, mais c'est vraiment lié au nombre aussi. Et d'ailleurs, les ateliers cet après-midi, je vous rappelle qu'il faudra vous inscrire derrière entre midi et deux. Hugo va devoir relever encore un défi plus élevé maintenant, puisque il va devoir nous proposer quelques solutions, ou en tout cas, il n'y a pas de recette miracle, j'imagine bien, mais quelques pistes pour voir ce qui peut fonctionner pour lutter contre le fascisme en 30-40 minutes, pour qu'il puisse y avoir des questions.